With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard Affût, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, un peu spécial, mais en fait comme chaque numéro, chaque semaine, à chaque fois, nos invités sont très spéciaux. Et pour animer cette émission, bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Rav, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de m'accueillir encore pour cette belle émission. Poulard Affût, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine le dernier épisode directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité dont tu souhaitais absolument recueillir le témoignage pour de nombreuses raisons.
Oui, Arnaud, le joueur est mort et vive l'homme. C'est dans une de ces fameuses tribunes dans le milieu olympique, la première d'ailleurs, post-carrière d'ailleurs, que Bakary Meïté nous a offert ce regard décalé qu'on aime chez les personnalités qui fleurissent encore dans notre cher rugby. Oui, on a parlé il y a peu de la petite mort du sportif et ce moment délicat où tout s'arrête pour beaucoup. Eh bien, à l'image du bonhomme qui ne se laisse pas porter par une forme de défaitisme ou de bien-pensance, Bakary parle plutôt de renaissance après avoir passé 15 ans de sa vie à s'y filer à haut niveau, de Drancy à Montluçon, de Domont à Orléans, de Massy à Béziers, en passant par le Stade français ou encore Carcassonne. Bakary a une histoire particulière, mais aussi une plume, une audace et un talent certain pour raconter des moments de vie, des histoires du rugby, mais aussi comment il devient homme à travers ses expériences et ses rencontres hors rugby. Il ose faire couiner de temps en temps par ses écrits notre microcosme rugbystique, englué parfois dans une image un peu trop polissée. Bakary a toujours été, à mes yeux, en tout cas, un électron libre, le mec qu'on ne peut pas foutre dans une case, pardon, et c'est peut-être par ce parcours atypique et aussi parce qu'il n'était pas passionné depuis l'enfance par le rugby qu'il a ce détachement que j'apprécie, vraiment. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai juste envie de me laisser porter par cette rencontre atypique et rare, juste me laisser porter par l'échange, comme sait le faire notre invité, avec détachement. Bienvenue Bakary dans Poulain Rafut, salut.
Salut, salut à tous, salut Arnaud, Raph, merci pour l'invitation, c'est cool.
Bakary, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi Raphaël voulait absolument t'avoir cette semaine? C'est que vendredi dernier, il y a quand même un événement qui a marqué ta vie, qui a marqué aussi le microcosme du rugby, c'est la sortie de ton livre, le premier, peut-être le premier d'une longue liste, sait-on jamais. Des rugbyman qui écrivent des bouquins, ça ne court pas les rues. On a notre Raph Poulain National, évidemment, qui l'a fait avant toi. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à te lancer dans ce défi?
Alors, effectivement, c'est un truc que je faisais depuis longtemps. J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça. J'ai souvent posté des choses sur mes réseaux sociaux, des choses comme ça, c'était un peu confidentiel pour les gens qui me suivaient. J'ai souvent écrit aussi uniquement pour moi, sans forcément le partager. Et quand j'ai eu l'occasion de faire ce que j'ai fait à l'hôpital, j'ai pris des notes dès le premier jour et en compilant ces notes-là, je me suis dit, sur les conseils d'Aristide Barrault, un autre rugbyman qui a écrit un livre, un artiste. Et c'est, enfin, la jeunesse de ce livre, elle lui est un peu liée et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire un bouquin et j'ai présenté ça à notre éditrice en commun, Mireille Paolini, et elle m'a donné son feu vert et voilà.
Mais c'est assez fort quand même comme la manière, en fait, je ne sais pas pour toi, mais tu sais, ce truc en fait qui devient fluide, il y a un bouquin qui, c'est de Neil Donald Walsh qui s'appelle « Conversation avec Dieu », où en fait, tout devient fluide en fait quand tu commences à écrire. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça en fait. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Moi, aucune volonté de sortir le bouquin, mais ça dégueulait de partout, ça sortait. Et puis, une espèce de plume, en fait, en tout cas, ma personnalité qui arrivait à être mise sur les ordinateurs, sur des feuilles blanches. J'écrivais le jour, la nuit. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, ce moment de se dire, en fait, ouais, je peux en faire quelque chose. Et avant ce moment-là, cette manière, cette fluidité qu'on... Il y a peut-être aussi une similitude sur le terrain ou ce qu'on appelle le flow. Tu sais, c'est le moment où tout est réuni, le corps, les émotions, le mental, l'aspect, tout est réuni. Et moi, quand je prenais le stylo, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais en fait, tout sort comme ça. quelque chose d'assez naturel, sans volonté d'ego, de vouloir exister autrement qu'à travers la plume.
Clairement ça, c'est moi quand des fois j'écris, effectivement, je vois même pas le temps passer et ça sort tout seul, souvent par des gros blocs. Il y a des fois où j'écris pendant plusieurs jours d'affilée, il y a des fois où j'écris très peu, mais effectivement, il n'y avait pas de frein, c'était quelque chose qui sortait naturellement. Et comme j'ai dit, dès le premier soir, j'ai pris des notes et je me suis rendu compte que je m'étais mis en mode éponge un peu dans ce que je faisais, et j'absorbais tout ce qui se passait autour de moi. Et le soir, je le ressortais avant de me coucher, d'une manière générale. Et j'ai toujours fait ça pour tout ce qui m'entourait, sur des sujets de société, sur ce que je voyais, sur le rugby, sur plein de choses. Et à chaque fois que j'observe ce qui se passe autour de moi, j'ai envie d'en faire quelque chose à l'écrit. Ça passe par mon cerveau et ça ressort par la plume. Et c'est quelque chose qui se fait assez naturellement.
Alors, ce livre, Bakary, c'est Les Chiffons Bleus. Alors là, j'ai que les épreuves écrites pour ceux qui nous regardent. Les épreuves non corrigées, mais voilà, le livre, il est là. Donc, Les Chiffons Bleus. Je vais faire le pitch.
J'ai l'impression d'être Laurent Ruquier, là.
Le livre de Laurent. Mais profite-en. On est là pour ça aussi, justement. Il faut mettre en avant ces petites œuvres d'art. J'aime bien.
Alors, justement, moi, je ne suis pas Thierry Ardisson pour faire le pitch, mais c'est le récit d'une expérience un peu atypique. Petit flashback. On est en mars 2020, tu es en vacances au Brésil. Le président de la République, Emmanuel Macron, prend la parole et annonce le confinement, une épreuve, une nouveauté dans la vie de tout un chacun. Et toi, tu es au Brésil et c'est le point de départ de ce livre. Est-ce que tu peux nous raconter la suite?
C'est quasiment 2 ans jour pour jour. Ça me faisait penser parce que je vois plein de potes, moi, rugbyman, là, qui sont en vacances là, parce qu'il n'y avait pas de top 14 et il n'y a pas de Pro D2 ce week-end. Et c'était ça. C'était une semaine, j'attendais ces vacances avec impatience. Quand on arrive au mois de mars, on commence à être fatigué. Je pars au Brésil, je vais voir des amis que j'ai là-bas et tout. Les gens déjà me disaient, mais tu vas partir au Brésil, tu t'es fou, le Covid et tout, machin. Mais moi, j'avais vraiment besoin de ces vacances-là, donc je pars.
Notamment ta maman. Hein.
Ouais, ma mère était un peu stressée.
On en parlera un peu plus tard.
Je pars malgré tout. Et là, donc, confinement qui est annoncé, je rentre. Et 2 jours après, j'ai cette opportunité d'aller travailler dans cet hôpital via ma sœur qui est contactée par son beau-frère. Et c'est mon neveu Zakaria qui décide, lui, d'y aller parce que je pense qu'il a peur de l'oisiveté, il a peur de s'ennuyer et tout. Et je pense que j'ai une réaction derrière qui est la même que lui en disant, bah ouais, moi aussi, je veux bien y aller, sans savoir où est-ce qu'on allait mettre les pieds. Et on y va et le lendemain, on se retrouve à travailler moins de 24 heures après dans cet hôpital dont on savait absolument rien.
En tant qu'agent d'entretien, je précise, Bakary.
Ouais, en tant qu'agent d'entretien et on m'a filé une mission. Je remplaçais quelqu'un qui avait décidé d'arrêter parce que la personne avait eu peur du Covid. Je faisais des tâches que les médecins parfois étaient obligés de faire ou les infirmières et tout. Et c'était ça qui était plutôt chouette parce qu'on se dit, vaut mieux qu'ils soient occupés à faire autre chose, à s'occuper des patients, des malades, que de faire du nettoyage, qui n'est pas leur fonction première. Donc c'était en ça qu'on se sentait vraiment utile avec mon neveu.
Je reprends un peu le parallèle avec le livre que Rav avait écrit quand j'étais Superman il y a quelques années. Ce qui est assez troublant, c'est que c'est un vrai témoignage de ce que tu as vécu et en même temps, ça se lit comme un roman. Est-ce que tout est vrai dans le livre ou est-ce qu'il y a une part romancée?
Non, très honnêtement. La seule chose qui est fausse dans les livres, c'est les noms, c'est les prénoms. J'ai dû changer les prénoms pour des raisons que tout le monde comprend. Mais mis à part ça, j'ai absolument tout ce qui se passe dans le livre est vécu comme ça. Alors effectivement, ça peut se lire comme un roman, mais c'était une parenthèse de ma vie qui s'est passée comme ça et j'ai voulu la raconter de cette manière-là. Et c'est plutôt un beau compliment de me dire que ça se lit comme un roman.
C'est très vivant.
C'est de l'authentique. Moi, je voudrais juste revenir sur le côté asso. J'ai eu l'occasion de bosser pour les Restos du Cœur en 2013. Et puis, quand le confinement est arrivé aussi, j'ai fait un peu de distribution de bouffe. Je suis d'ailleurs allé à Massy, je suis allé dans tous les clubs pour récupérer de la bouffe et distribuer dans d'autres assos. Au-delà de ça, moi, ce que je voulais savoir, parce que je trouve qu'on a quand même pas mal de similitudes, toi et moi, nous, au-delà du bouquin, de la plume, de ce côté artistique qu'on assume complètement et de ce détachement par rapport au rugby, qui est pour moi un épiphénomène dans nos vies très important, mais qui nous a permis de devenir ce que l'on est. Mais C'est l'hommage par rapport à ma mère, en fait, et par rapport à nos parents, en fait. En tout cas, cette éducation qu'ils nous ont donnée, ou cette volonté de se tourner vers les autres. Moi, je l'ai vécu comme ça, le rugby. Et ce que j'ai fait, ce n'est pas du tout une mise en avant par rapport au resto du cœur. J'en ai rien à branler, ce n'est pas le truc. Est-ce que ça ne vient pas de notre éducation aussi, de ce que l'on a vécu avant, de ce détachement aussi par rapport au rugby? Parce que moi, je n'étais pas passionné non plus par le rugby. Je trouvais ça génial et j'en suis encore amoureux de ce sport. Mais est-ce que ce n'est pas ce détachement qui nous amène justement à prendre la plume, à se tourner vers les autres et une volonté d'essayer de comprendre l'humain derrière le sportif? Je ne sais pas comment tu le vis, toi, de ton côté.
Non, mais ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que, pour le coup, quand j'ai fait ça il y a 2 ans et encore aujourd'hui, souvent, les gens essayent d'établir un parallèle avec ce que j'ai fait et les fameuses valeurs du rugby. On parle de solidarité, etc. Et ce n'est pas des choses qui sont vaines. Ça existe vraiment. Les gens, il faut qu'ils comprennent. Le rugby, c'est ça. C'est clairement ça. Mais quand on me pose la question de savoir si, effectivement, c'était par rapport au rugby que j'avais fait ça, j'essayais de leur expliquer que le fait que je me sente bien dans une équipe de rugby et que je me sente bien dans le rugby, et tout, etc., ça découle du fait de l'éducation que j'ai eue. Et la solidarité me vient d'abord, en premier lieu, de l'éducation que j'ai eue. Et effectivement, ça s'est sublimé dans le monde du rugby. Et si j'ai fait ça à l'hôpital, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, c'est avant tout par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Et moi, la solidarité, je la vis et j'ai grandi avec parce que je grandis dans une famille nombreuse. Et de facto, quand tu es dans une famille nombreuse, tu es obligé d'être solidaire. Tu n'as pas le choix, en fait. Et c'est comme ça. Et est-ce que c'est grâce à ça que je me suis bien senti dans le monde du rugby? Clairement, oui. Et effectivement, ça a permis de faire ce que j'ai fait dans le rugby et aussi de faire ce que j'ai fait à l'hôpital. Mais je pense que ce n'est pas l'inverse. Et le fait que tu poses la question, c'est clairement que tu as compris la chose.
D'ailleurs, Zachary, c'est ton neveu, Bakary, tu parles de solidarité familiale parce que quand tu rentres du Brésil, c'est le point de départ du livre, mais il n'y a plus de train, il n'y a plus rien, tu ne peux pas rentrer à Carcassonne, donc tu squattes chez ta grande sœur. Ouais. À qui tu rends d'ailleurs un bel hommage, puisque tu racontes malheureusement le départ prématuré de ton papa et ta grande sœur qui a joué un rôle important, hein, c'est ce que tu racontes un peu dans le livre. Là où je voudrais en revenir, c'est vraiment ce point de départ, cette décision d'aller à l'hôpital quand tout le monde vit sous la terreur d'un virus que personne ne maîtrise. Et il y a cette phrase dans le livre, le premier jour où tu arrives à l'hôpital Sainte-Périne, où tu prends conscience d'une chose, c'est la peur. Je te cite, hein, tu dis « j'ai peur d'être contaminé, peur de contaminer mes proches, peur même d'y laisser ma peau
». Ouais, mais la décision, elle se prend une fraction de seconde. Et c'est quelque chose de totalement inconscient qu'on fait sans savoir. Encore une fois, je dis, je ne savais même pas quel hôpital, je ne savais même pas où, je ne savais rien. J'avais juste envie d'aller aider et de faire comme mon neveu. Et effectivement, donc on prend cette décision, on y va. Et là, c'est quand il y a un contre-coup qui arrive après. Et là, tu dis, mais en fait, effectivement, je suis à l'hôpital et je vais côtoyer des malades. Il y avait des infirmières, des aides-soignants qui nous mettaient en garde en nous disant, attention, vous n'appréciez pas de cette chambre-là. Il ne faut surtout pas laisser sortir ce patient-là, etc. etc. Et donc, le contre-coup, il arrive et là, tu dis, ah ouais. Et donc, c'est réel. Les gens meurent de cette maladie. Moi, j'ai tout de suite été... mais j'ai été rassuré parce qu'on était dans un microcosme où les règles étaient respectées et les choses se passaient bien. Et je raconte à un moment, je ne sais plus si j'en parle dans le livre, mais la seule fois pendant cette période-là où je me suis senti très, très mal à l'aise, c'est quand j'ai dû aller faire les courses au Carrefour à Porte d'Auteuil, où effectivement, là, je me retrouve avec des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont des masques, il y a des gens qui ont des gants, les gens sont agressifs dès que vous vous approchez d'eux, etc., etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout ordonné. À la différence de l'hôpital où on était, il y avait des règles. Il fallait porter des gants, il fallait mettre un masque, il fallait changer toutes les 4 heures. Il y avait tout un protocole à respecter, etc., etc. Donc, dans ce microcosme, je me sentais plutôt safe après le contre-coup. Et effectivement, quand je me retrouvais à l'extérieur, là, je me sentais un peu moins safe.
Il y a une chose qui m'a marqué aussi, Bakary, c'est que la tâche qui t'est donnée, elle est quand même très chronophage, très répétitive. Tu dis, je te cite encore, tu dis que tu te sens tel Charlie Chaplin dans les temps modernes. Tu passes ton temps à essuyer des rambardes et des boutons d'ascenseur.
Exactement ça. Je faisais littéralement tous les jours la même chose, sur le même circuit, dans le même ordre, et en plus un peu monomaniaque. Je faisais tout le temps la même chose. Donc, je commençais toujours par le rez-de-chaussée, et je montais l'étage, ensuite je redescendais, et tout, etc. Et pour moi, c'était hors de question de changer l'ordre. Et je passais tout le temps dans le même truc. Et j'étais resté là-dessus. Et alors, effectivement, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais parti un petit peu sur un, en mode tableau de bord, carnet de bord, et je me suis rendu compte que ben non, ça allait être très chiant à lire si jamais je racontais mon quotidien tous les jours et tout, et parce que c'était tout le temps la même chose.
Du mais coup, on le perçoit quand même dans le livre, hein, Thierry. On le perçoit que c'est quand même très répétitif. Et il y a une chose qui m'a marqué. Tu dis que le premier jour, tu sors épuisé. Je te cite, 10,64 km affichés sur ton Apple Watch, soit 13 654 pas. Finalement, c'est moins fatigant d'être rugbyman professionnel, non?
C'est clair, si je reprends les données GPS des dernières années, c'était pas ça. Mais non.
J'ai jamais fait 10 bornes dans un match.
Au rugby, non, je ne fais pas de demande.
Je plaisante.
non, mais c'est vrai. Et j'ai été surpris. Et mon neveu me l'a dit en plus. Lui, on est rentré à la maison, il m'a dit, je ne pensais pas que c'était aussi dur de faire le ménage. Et je me suis rendu compte, effectivement, que la première journée, j'étais harassé, que j'ai continué comme ça, sur le même rythme, tous les jours, 6 jours sur 7. Et je me suis clairement rendu compte de la pénibilité du travail. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, parce que tous les métiers sont pénibles. Je vais vous dire, tu restes assis à un bureau toute la journée devant un ordinateur, et ben tu te flingues les yeux, tu te flingues le dos, donc il y a de la pénibilité partout. Mais moi, j'ai pu toucher du doigt cette pénibilité des personnes qui font le nettoyage dans un hôpital.
D'ailleurs, le rugby te manque très vite. Hein. Tu le dis dès la fin de ta première semaine de travail à l'hôpital, tu dis que le rugby te manque énormément.
Clairement, parce que je me rends compte du monde qui m'entoure et de gens qui font ça, et de me dire que c'est un métier alimentaire, un métier qui leur permet de payer des factures, qui leur permet de vivre, mais dans lequel ils ne prennent aucun plaisir. Et moi, mon métier, c'était de jouer au rugby. Une passion, un truc que j'adorais faire et pour lequel j'étais payé. Donc, je me rends vite compte que je suis hyper chanceux de ce côté-là et de me dire que le rugby me manque parce que j'ai envie de retrouver les sensations, j'ai envie de retrouver les copains, j'ai envie de retrouver le plaisir. Et même si j'ai adoré passer du temps à l'hôpital, j'étais joueur de rugby et je voulais redevenir joueur de rugby.
Est-ce qu'il n'y a pas un message justement à faire passer? Parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, tu sais, sur ces interviews, à la fin des matchs, il faut qu'on se remette au travail pour la semaine prochaine. La notion de travail, la notion de labeur, la notion de tu vois, tu parlais de répétitif. Mais d'un autre côté, ça peut l'être répétitif. Quand tu te lèves le lundi matin, tu as pris une branlée la veille et ça peut arriver pour des équipes qui en prennent. Et on en a tous pris. Tu vas au boulot, tu vas à la muscu, tu as des trucs un peu rébarbatifs. Mais cette notion de plaisir, est-ce que ce n'est pas ce supplément d'âme, l'amitié un petit peu qu'on a dans le rugby et qu'on ne retrouve pas obligatoirement dans beaucoup, beaucoup de métiers hors rugby, ce qui d'ailleurs… Je pense que c'est important de vivre ce que tu as vécu pour bien te rendre compte de la saveur du métier de rugbyman, en fait.
Ouais, l'immense majorité des gens travaillent pour survivre, pour vivre. Et effectivement, nous, en tant que sportifs professionnels, on a eu cette chance de vivre de notre passion. Mais encore une fois, je ne veux pas donner de leçons. C'est dur d'être joueur de rugby. Il ne faut pas que les gens pensent que jouer au rugby, on court juste après un ballon, et tout, etc. Il faut s'entraîner dur, il faut faire des sacrifices au niveau physique, ça laisse des traces, nos carrières sont courtes, et tout, etc. C'est dur, et puis ça commence tôt, on fait beaucoup, beaucoup, le rugby passe avant beaucoup, beaucoup de choses, on passe à côté de beaucoup, beaucoup de choses pendant sa jeunesse. Clairement, c'est dur, mais on en récolte tellement de choses hyper positives, hyper agréables, que effectivement, c'est un travail auquel il faut se coller. Et on a cette chance-là de récupérer de l'adrénaline, de faire du plaisir aux gens. Encore une fois, quand vous êtes agent d'entretien, il n'y a personne qui vous applaudit, il n'y a personne qui est là, machin, kiffant. Nous, on donne du plaisir aux gens. Donc, il y a tout ça qu'il faut qu'on conserve, qu'on garde. Mais voilà.
Parce que tu disais, tu vois, j'ai introduit le petit portrait que j'ai fait de toi, justement, sur la notion de plus d'une renaissance que d'une mort. Est-ce que le fait que… tous ces moments-là aussi puissent manquer. Est-ce qu'on peut parler de petite mort? J'insiste pas, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais c'est quand même un passage qui est délicat vers le monde d'après, vers le monde entre guillemets normal, où là, justement, il faut peut-être remplir la gamelle en allant vivre aussi des métiers qui ne sont pas aussi jouissifs. Et il y en a rarement aussi. C'est d'ailleurs ce deuil qu'il faut faire aussi de cette adrénaline, de ces émotions en fait que l'on vit et que l'on ne vivra plus après. Et le remplacement, on peut peut-être courir après toutes ces mêmes émotions, mais on ne les retrouvera peut-être jamais.
C'est clair. Tu fais référence à ce que j'avais écrit dans Midi Olympique. J'avais écrit effectivement a priori et je ne regrette absolument pas ce que j'ai écrit et je le pense sincèrement. Néanmoins, effectivement, maintenant je suis rattrapé par la réalité, ce n'est pas évident. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste qu'il y a des possibilités de faire autre chose, à condition de l'avoir préparé, à condition de l'avoir anticipé, Mais effectivement, ce qui manque clairement, c'est ce qu'on, toutes les émotions qu'on récupère dans le sport. Et c'est pas que notre sport, hein. Dans tous les sports, tous les sportifs vous le diront. Et même si on peut être épanoui dans autre chose, dans tout ce qu'on fait et tout, etc., il manque. Il y a un manque qui est indéniable.
Mais tu sais quoi, dans ta manière de parler, de t'exprimer, il faut que tu montes sur scène, toi.
Sur scène.
Je sais pas.
Je crois pas, non.
Je sais pas. Non, je sais pas. Mais non. Mais alors, t'as peut-être. Mais je sais pas. Il y a un truc. Hein. C'est hors propos. C'était pas des questions qu'on voulait te poser. Mais là, de ce que je ressens, c'est pour ça que je voulais me laisser porter un petit peu par faire ta connaissance dans ce qu'on partage là. C'est ouais. T'as une.
Non. Mais je persiste et je.
Tu fais avec la plume.
Sur ce que j'écris et tout, c'était vraiment ça de dire. La carrière, elle est finie, mais faut pas se laisser bouffer là-dessus. Par ça, il faut l'avoir anticipé. Il y a plein d'autres choses. Et comme tu disais tout à l'heure, notre sport, c'est un microcosme. Mais on vit dans un monde qui nous entoure. Il y a un million de possibilités et il faut aller vers toutes ces possibilités-là. Et je ne cache pas que c'est compliqué. Effectivement, quand je suis parti voir Carcassonne jouer quelques fois et je les vois sortir du tunnel, ouais, ça pique un peu parce que tu as envie d'y être. Et puis, tu n'es pas sur le même rythme que les gens. Eux, ils sont à l'entraînement. Toi, tu es devant ton ordinateur, des choses comme ça. Vous n'êtes plus sur le même rythme, vous voyez moins et tout. Ce n'est pas facile à gérer, mais ça se gère.
Est-ce que justement, l'expérience que tu as vécue à l'hôpital t'a permis de mieux appréhender ta sortie de carrière, ta sortie du rugby ? Parce qu'on sent quand même dans ton livre une vraie volonté aussi de mettre en lumière toutes les petites mains, entre guillemets, cette armée des ombres dont tu parles. Je pense à Swed, Mariam... Enfin, tous ces petits portraits que tu des ombres croisées à l'hôpital que tu dépeins et qu'on a envie presque, on a envie quand on sort du bouquin d'aller prendre un café avec ces gens-là.
Je les ai emmenés avec moi dans ma dernière année de rugby. C'est ce que je disais, c'est que j'avais envie de revenir jouer au rugby et que j'avais envie de revenir au rugbyman. Mais ils m'ont jamais quitté. Ils m'ont jamais quitté. Je les ai emmenés avec moi jusqu'au dernier match de la saison avec Carca et ils étaient toujours là. Ils m'ont aidé clairement parce que j'ai vécu autre chose, j'ai eu cette parenthèse magique avec eux. Et quand j'ai dû les quitter, je les ai emmenés avec moi et ils m'ont suivi toute la saison. Ils m'ont aidé j'avais particulièrement envie de bien finir ma carrière de rugby à Carcassonne. J'avais pas envie d'être un mec hors groupe ou dans la peau d'un remplaçant. J'ai voulu être compétitif, j'ai voulu finir et jouer le plus de matchs possible, mais je les avais toujours dans un coin de ma tête et après, c'était plus, je ne pouvais plus les dissocier, je les emmenais avec moi comme si.
Mais j'ai l'impression, en fait, à travers le livre, mais à travers toutes tes expériences, tu vois, je le disais, hein, Drancy, Montluçon, Domont, Orléans, Massy, Béziers, le Stade français et donc Carcassonne. En fait, c'est pas un gamin qui sort d'un centre de formation à 17 ans, qui va arriver à 18 ans en équipe première en top 14. En fait, tu passes par des clubs, tu as une espèce d'évolution qui t'amène en fait non pas à finir dans la clarté, je vais dire, à Stade français, mais plus à Carcassonne avec cette reconnaissance. Tu as fait ce que tu avais à faire dans le rugby, en plus au milieu avec des expériences qui te permettent de garder des pieds sur terre et surtout dans des clubs qui permettent de garder aussi des pieds sur terre. Est-ce que le fait de ne pas avoir été, comme je le disais tout à l'heure, passionné par le rugby, même si je pense que tu es amoureux de ce sport et surtout des hommes qu'il y a autour, t'as permis justement d'être l'homme que tu es aujourd'hui, tu vois, dans tout ce que tu racontes. Ouais. C'est quand même un parcours qui est à la fois atypique, mais qui est tellement typique de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs aussi de rugby, quoi.
Oui, Arnaud, il le disait à l'instant, ça m'a aidé, mais parce que j'ai aussi connu ça avant, le rugby. Moi, j'ai joué à Massy et j'ai joué à Orléans et je faisais 200 bandes par jour pour aller travailler à la banque. Et pour pouvoir m'entraîner le soir. Et la journée, je travaillais à la banque et le soir, je m'entraînais avec Massy. J'ai commencé le rugby comme ça. Et le rugby aussi m'a mis un pied dans le monde professionnel parce qu'avec les partenariats avec la Société Générale à l'époque, ça m'a permis de concilier les deux. J'avais zéro expérience et grâce à mon passeport de joueur de rugby, j'ai pu entrer à la banque, j'ai pu travailler pendant des années. Et ensuite, j'ai fait quelques sacrifices pour pouvoir devenir joueur pro et avoir mon premier contrat pro à Béziers. Et je me suis lancé là-dedans à fond. Et voilà, quand j'ai décidé que le rugby deviendrait mon métier, j'ai pu lâcher le steak. Et j'ai continué comme ça, et ça m'a amené là où ça m'a amené.
Juste pour revenir sur les mini-portraits que tu dresses, un peu des gens que tu rencontres à l'hôpital, tu dis que tu les as emmenés avec toi jusqu'au dernier match. Il y en a une, visiblement, tu n'as pas dû l'emmener très loin quand même. La dame de l'accueil qui te parle mal, qui te propose les croissants parce qu'elle a appris que finalement, tu étais une personnalité un petit peu médiatique et qui, bizarrement, du jour au lendemain, a un autre regard sur toi. C'est quelque chose qui t'a profondément agacé, on le sent dans le livre.
Ouais, mais aujourd'hui, je ne lui en veux plus. Mais c'est vrai que, c'est vrai que moi, quand, les premières semaines, quand j'y suis à l'hôpital, je passe incognito, entre guillemets, parce que les gens...
Tu es l'ivoirien, entre guillemets, de service, parce que tu en parles exactement. Aussi de ça.
Non, non, mais c'est clair, parce que tous mes collègues sont des étrangers qui sont originaires ou d'Afrique noire, ou du Maghreb, ou d'Inde. Et je suis un de plus, finalement. Alors, j'ai un physique un petit peu plus costaud qu'eux. Alors, les gens me reconnaissent là-dedans, mais je passe un peu incognito sur les premières semaines et je fais mon truc, je dis bonjour, je dis au revoir, et voilà. Et c'est vrai qu'après, quand il y a eu cette frénésie médiatique, les gens ont commencé à venir
me parler. On va en parler après.
Les gens ont commencé à venir me parler et tout, etc. Et donc, les gens me reconnaissaient. Et c'est vrai que cette dame-là, qui avait été assez agressive avec moi, on va dire, les premiers jours, a tout de suite changé d'attitude. Et j'en avais un peu voulu, mais aujourd'hui, c'est pas ça.
Bon, et juste avant de passer sur la deuxième thématique, Bakary, avec Raph, on est obligé de se poser cette question quand même, parce qu'il y a cette passion soudaine pour les canards. Ceux qui te suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux savent que tu as donc adopté deux canards durant cette période. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quand même, parce que
est-ce
c'est
qu'ils
assez...
sont là déjà? Est-ce qu'on peut les voir ou non? Il y a pas...
Je ne les emmène pas avec moi, ils sont dans le jardin, ils sont très heureux. Non, alors si tu veux, ce n'est pas si soudain que ça.
Et c'était plus, pour te débarrasser des biscottes qu'on essayait de te refourguer à chaque fois qu'il y avait un café ou pas? Parce que dans le bouquin, vous verrez, on ne va pas tout révéler, mais il y a des petits running gags qui arrivent comme ça en permanence.
Alors, pour le coup, les canards, ça vient de ma période du Stade français. Et c'est un truc... J'étais un peu dans le dur. Donc, je ne jouais pas beaucoup et tout. Mais j'habitais à Meudon. Et à Meudon, j'avais un lac artificiel en bas de chez moi et avec des cols verts, des canards, mais des centaines de canards. Et souvent, je descendais en bas de chez moi et je me rendais compte que c'était le moment où j'étais vraiment frustré, j'étais énervé à la maison. Ça gueulait un petit peu et tout, etc. Et quand je descendais et que je m'asseyais sur ce banc et que je regardais les canards, je pouvais passer une heure sans m'en rendre compte. C'est un truc qui arrive à me calmer, qui arrive à m'apaiser et tout. Et ce truc-là, il est resté. Il est resté. Je retourne à Carca, je fais cette expérience à l'hôpital et je recroise un couple de canards colverts qui se promenaient dans le jardin de l'hôpital. Et là, du coup, je suis fasciné par ce couple de canards. Je les suis, j'essaie de leur donner à manger et tout, etc. Et donc, je prends la décision, une fois que je rentrais à Carcassonne, de prendre des canards. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai été à côté de Castres. J'ai été chercher un couple de canards. Sauf que j'ai pris les canards de Barbarie. Et les canards de Barbarie, c'est des canards qui sont trois fois plus gros que les canards colverts. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je me retrouve donc aujourd'hui avec deux canards. Mais ce que j'adore, et c'est des gens ne savent pas, mais les canards, c'est un animal très social. Et c'est comme un chien ou un chat, en fait. Donc, ça s'éduque. C'est pareil et du coup voilà,
c'est génial. Bon, on va parler un petit peu, on va revenir toujours à travers le livre, hein, je le rappelle, Les Chiffons Bleus aux éditions du Seuil, donc qui est paru depuis vendredi 11 mars. Tu le racontes dans le livre, hein, tu es venu au rugby sur le tard par l'intermédiaire d'un copain de la fac qui te convainc de rejoindre le club de Drancy en Fédéral 2. À l'époque, tu as 22 ans quand même, hein, donc ça arrive très tardivement. J'ai dit Fédéral 2. Ah oui, pardon, ouais. Fédéral 3.
On monte en Fédéral 2, on fait une année, on monte.
C'est ça. Et tu découvres un monde loin des terrains de basket, qui était un peu ton univers à l'époque. Enfin, qui l'est toujours, d'ailleurs, on le voit avec tes fameuses casquettes.
Ouais, non, mais je découvre le rugby. J'ai fait 10 ans de basket. J'ai joué jusqu'en espoir à Levallois. Je ne suis pas passé pro parce que c'est bon. J'étais un peu un chien de garde sur le terrain de basket. J'étais très, très bon en défense. Voilà. Je me régalais, mais et du coup, quand se présente à moi la possibilité de faire du rugby, je suis un peu sceptique, j'y vais parce que mon pote me tanne pour que j'y aille, et j'y vais à Drancy, et là, je découvre des mecs géniaux avec qui j'ai commencé le rugby. J'ai commencé le rugby avec des mecs. J'ai poussé en deuxième ligne avec un mec qui avait 45 ans quand même, en Fédéral 3, et là, j'ai 22 ans, et je me dis, mais c'est dingue, comment ça peut être possible? Là, je vois des physiques un peu... bizarre, je vois des mecs, des gros, je vois des grands, je vois des machins, et des mecs de banlieue en plus, moi le parisien, donc, mais je suis tout de suite adopté par ce club-là, et puis c'est des mecs géniaux, on s'entraînait deux fois par semaine, il y avait deux bouffes par semaine, et on joue le week-end, et je découvre un univers que je ne connaissais pas du tout, et là c'était parti quoi.
Un monde où les troisièmes mi-temps,
Qu'est-ce qui différencie un peu le monde du basket, bon, la limite professionnelle, parce que tu es espoir et Valois, avec cette espèce de grand écart vers Drancy, c'est qu'est-ce qui différencie les deux sports aussi? Est-ce que c'est la notion de guerre, de combat, de convivialité?
Il y a effectivement la convivialité, mais il y a tout de suite effectivement la solidarité dont on parlait tout à l'heure. Je le répète à souhait, mais les autres sports, tu peux te la jouer perso. Et moi, je l'ai vécu dans le basket. Tu pouvais jouer perso, tu pouvais dire, enfin voilà, c'est lui la star de l'équipe, c'est lui qui va prendre tous les shoots, c'est lui qui va machin. Et s'il ne veut pas défendre, il ne défendra pas, il faut lui donner la balle et tout machin, bidou chouette. Au rugby, ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire ça, en fait. Et moi, j'ai découvert ça, et puis je me suis rendu compte que il fallait y aller pour les copains, et les copains, ils iront pour toi. Et je découvre un peu ça, et je découvre effectivement la convivialité aussi, cet esprit, et puis...
Dans le livre, il y a une phrase magnifique, Bakary. On raconte quelques troisièmes mi-temps. Tu racontes avoir transformé un wagon-bar de TGV en open bar. Donc ça, tous les clubs de fédéral l'ont connu, les clubs parisiens. Ouais. Il y a ce commentaire qui est délicieux. Je te cite, quant à l'addition qui arriva au club quelques semaines plus tard, elle était plus salée que les chips dont je m'étais moins frais durant tout le trajet.
Ah non, c'était ils avaient la SNCF. Après, je l'ai plein, les pauvres, parce que c'est comme tu le dis, ça a dû arriver une paire de fois. Et moi, je découvre tout ça et je me dis, mais le mec était derrière son bar, il a juste abandonné, il a dit, écoutez, allez-y. Et là, c'était parti. Mais c'était pas méchant, c'était pas de la casse pour de la casse, c'était pas le truc, c'était vraiment de la convivialité et ça a débordé. On s'est laissé déborder, c'est pas à faire, hein, mais on s'est laissé déborder. Et puis après, effectivement, derrière, il y a des conséquences et il faut les assumer, hein, tout simplement.
Alors, dans le bouquin, pour raconter un peu ta carrière, il y a que deux chapitres réellement qui évoquent finalement ton parcours rugbystique, en tout cas ton parcours professionnel, qui a débuté à 27 ans, hein, donc sur le tard, hein, Bakary. Le premier, c'est celui qui est consacré à Béziers, et c'est surtout pour souligner combien tu n'étais pas en phase avec le maire de la ville, hein, Robert Bénard. Et le second, c'est Carcassonne, qui t'a donné goût un peu au rugby après ton passage au Stade Français. C'est un choix finalement de ne pas avoir beaucoup misé sur le rugby dans ce bouquin?
Ouais, clairement, ouais. Et c'est même pire que ça, je vais te dire, c'est Mireille, mon éditrice, qui m'a imposé. Je voulais même pas en parler. Je voulais pas parler rugby parce que c'était pas ça qui était le plus important. Mais Mireille m'a obligé à le faire parce qu'il fallait contextualiser, il fallait recontextualiser. Et puis, l'histoire, elle est claire, elle est pas anodine. Et quand il y a eu cette frénésie médiatique, c'était un joueur de rugby qui faisait ça, au-delà de moi.
On va en parler après, parce que tu as une dent contre les journalistes. Hein. Enfin, pas une dent, mais en tout cas, tu as mal vécu.
Mais pour rebondir sur effectivement les deux passages que j'évoque, qui ont été hyper importants dans ma carrière, c'est Béziers, où j'ai vécu une histoire d'amour extraordinaire avec le public, les supporters, avec un club de passionnés, un club historique que j'ai appris à connaître. Pareil, ça, tu vois, tout le monde devrait connaître l'histoire de Béziers. Tous les sports, tout le monde. Alors aujourd'hui, on est plus jeunes, pas Stade Toulousain, mais il faut savoir ce que c'était Béziers à l'époque. Et les gens doivent le savoir. Et moi, j'arrive dans ce club-là et je découvre une passion que je n'ai jamais connue. Et donc voilà, ça se passe super bien pour moi. Et puis effectivement, il y a ce petit truc avec le maire. Je rebondis là-dessus. Il est revenu sur ses propos contre lesquels j'avais pesté à l'époque. Et donc, je me dis que ça me conforte dans l'idée que j'ai eu raison de le faire, même si ça n'a pas été facile, parce que ça m'a coûté quelques ennuis. Mais aujourd'hui, le voir regretter d'avoir fait ça, c'est clairement une fierté.
C'était des propos sur les migrants, hein, je rappelle, pour remettre dans le contexte.
Effectivement, c'était par rapport à ça. Et puis ensuite, Carcassonne, c'est... Je finis sur trois saisons, dont une qui est frappée du Covid, mais quand je pars du Stade Français, je suis à deux doigts d'arrêter le rugby, parce que je me dis que je ne vois plus rien.
Christian Labitte, hein, d'ailleurs, qui te tend la main et qui tu lui rends un bel hommage d'ailleurs dans le bouquin.
C'est Nash qui vient, qui Christian Labitte qui me remet dans le jus, et ça aussi, c'est des choses qu'il faut savoir comment dire. Pour les joueurs de rugby, il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César, et la carrière d'un joueur, elle tient à tellement peu de choses, j'en sais quelque chose parce que je l'ai vécu au Stade Français où j'ai été entraîné par des mecs qui ne m'avaient clairement pas choisi et qui avaient décidé que peu importe ce que je faisais, ils ne compteraient pas sur moi. Et donc voilà. Et donc ça vous met dans un état qui est un peu compliqué. Et au final, avoir la confiance de quelqu'un comme Christian Labitte, avec la carrière qu'il a et surtout qu'il a joué au même poste que moi, c'était quelque chose d'hyper revigorant et ça m'a reboosté et ça m'a permis de bien finir.
Vous avez ce point commun tous les deux, bah, d'avoir joué au Stade Français, tous les deux évidemment, mais surtout d'avoir très mal vécu cette période du Stade Français. Peu après l'arrivée de Hans-Peter Wild, avec notamment toute la gestion orchestrée par Heineke Meyer et, je vais quand même le citer, le directeur général de l'époque, Fabien Grosbon, que tu avais qualifié d'être délicieux de façon un peu ironique, Bakary, il y a quelques temps.
J'ai un point d'honneur à ne pas insulter les gens de façon publique sur les réseaux sociaux et tout, etc. Et je continuerai à le faire. Mais ce monsieur, il a fait clairement du mal au Stade Français. Il a fait beaucoup, beaucoup de mal. Les supporters le savent, les gens qui sont en dehors du club le savent un peu moins, mais il a fait énormément de mal. Et
parce qu'il n'y connaissait rien. Je ne cherche pas du tout d'excuses. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais... on a beaucoup échangé. Le mec voulait faire un stade 3.0, voulait faire de ce club, je me souviens, ce n'était pas le Real Madrid, c'était le Bayern de Munich du rugby, mais c'était la cour des miracles.
Déjà, quand ça commence sur des formules comme ça, là, déjà, ça sent le sapin. Et moi, je me faisais une joie parce que, pour le coup, mon supporterisme, il a commencé avec le Stade Français. Moi, je m'intéresse au rugby. Après ma première saison à Drancy, je vais au stade, je vais à Jean Bouin, je suis fan du Stade Français. Et de pouvoir me retrouver joueur au Stade Français, c'était une chance magnifique pour moi. Et puis, je m'étais dit, voilà, la politique, c'était de recruter des Parisiens, des gens qui ont envie de jouer au rugby pour Paris, pour leur ville et tout, etc. J'arrive là-dedans, je me retrouve parfaitement avec des mecs comme Paul Gabriel, comme Antoine Burman et tout, etc. Et je suis les mêmes. On est les mêmes, je veux dire, pardon. Et ces gens-là, dont on parlait à Fabien Grosbon, ils ont bousillé le truc, mais voilà, c'est fait, c'est passé.
Ça reste encore un mauvais souvenir aujourd'hui, Bakary, on le sent dans ton intonation. Hein.
Ouais, franchement, je te dis, c'était un... Si tu t'imagines, pour n'importe quel sportif, n'importe quel sport, n'importe quelle discipline, vous êtes fan d'une équipe et un joueur de foot qui est fan du Bayern de Munich, dont on parlait à l'instant, et qui se retrouve à jouer pour le Bayern de Munich, ou je ne sais pas, un joueur de basket, Et c'était vraiment un truc pour moi où je m'étais dit, bah, ça y est, c'était le feu. Et si j'étais clairement foudroyé dans ce truc-là, et c'est le rêve qui s'est transformé en cauchemar. Et j'en ai parlé avec ma mère. Et ma mère, elle me disait, c'est un proverbe qui est connu, c'est nul n'est prophète en son pays. Et elle me dit, t'étais bien à Béziers, t'aurais dû rester à Béziers, tout, etc. Mais moi, j'étais super heureux de revenir à Paris. Tout le monde était heureux. Au final, ça s'est transformé en un truc un peu catastrophe.
Juste pour conclure sur le passage, et puisque tu en parles, ta maman, dans le bouquin, il y a quand même ces moments assez drôles, enfin drôles en tout cas pour des regards extérieurs. Mais clairement, on ne va pas se mentir, on va se parler crûment. Elle t'enguirlande sérieusement quand même d'avoir fait cette expérience à l'hôpital.
Il y a eu des choses un peu... Au début, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'elle flippe. Elle flippe tout simplement. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Tu n'as rien d'autre à faire que de te retrouver à l'hôpital pendant une pandémie. Et elle a peur. Et je la comprends, mais j'essaie de lui expliquer que c'est un peu de sa faute. C'est l'éducation qu'elle m'a donnée. Je lui dis pas comme ça parce que voilà. Mais j'essaie de lui faire comprendre que c'est ce que j'avais envie de faire. Et aussi, je lui dis, ça a été ton métier à toi aussi pendant des années. Donc, tu peux pas m'en vouloir. Alors, il y a cette peur, effectivement. Et puis, il y a aussi, je pense, un petit peu sur le quand dira-t-on. Elle se retrouve à être la mère d'un sportif pro, à la mère de quelqu'un qui fait le ménage. Et comme tous les parents qui ont immigré en France et tout, ici, qui ont travaillé dur pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants, c'est clairement pas pour que leurs enfants se retrouvent à faire la même chose qu'eux, ils ont subi. Ma mère, elle n'a pas choisi d'être femme de ménage. C'est juste qu'elle était uniquement qualifiée pour ça. Et nous, on a eu une éducation, on a été à l'école et tout, etc. Et elle ne comprenait pas que je revienne sur cette case-là, donc voilà.
Et ta sœur et ton neveu en prennent pour leur grade aussi. Hein.
On est cinq enfants.
Ok, donc est-ce que c'est, voilà, la question que je te pose, est-ce que c'est dur pour une mère, Maïté, de suivre un gamin comme Bakary, vu ton parcours, vu ce que tu es aujourd'hui, vu ce que tu lui avais fait, pas subir, hein, loin de là, mais bon, après, c'est quand même des métiers, c'est déjà de rugbyman, de banquier.
Non, mais ça a été... ça a été
c'est
dur.
Un voyage à Bordeaux pour les parents.
Ah oui, clairement. Et surtout, ma mère, là encore ce week-end, quand je l'ai vue, elle me dit, elle racontait à sa copine, elle lui dit, mais de toute façon, lui, il essaye tout. Et il faisait du basket, il est parti essayer le rugby. Et maintenant, il écrit des livres. Elle dit ça comme ça, mais oui, ça a été dur de me suivre parce que elle n'a pas compris. Pareil, du jour au lendemain, je lui dis, j'arrête le basket, je vais faire du rugby. Alors elle me dit, oui, mais il faut que tu mettes un casque, il faut que tu mettes ceci, il faut que tu mettes cela. Je lui dis, ok, et tout machin. Puis elle a commencé à me suivre. Elle ne pouvait pas regarder un match de rugby au début. Et puis finalement, elle s'y est mise. Et aujourd'hui, elle adore ça. Et aujourd'hui, voilà, je l'emmène encore dans un autre univers. Quand je lui présente le livre, parce qu'elle n'en savait rien, j'avais demandé à mes frères et sœurs de garder le secret. Et je lui ai présenté le livre une fois qu'il était fini et tout. Et je lui ai amené en main propre. Elle a été surprise. Et elle se dit, mais où est-ce que tu t'en vas encore? Et ça, c'est... Enfin, voilà. C'est pas facile, effectivement.
Une autre question aussi, parce que tu parles de tes frères et sœurs. Comment on vit avec un frère comme Bakary?
Ah, écoute, moi, je suis...
Chacun a son chemin dans la famille, j'imagine.
Ouais, clairement, mais moi, je suis... on va dire, je suis un peu celui qui part dans tous les sens, mais enfin, j'ai tellement d'admiration.
Visiblement, c'est ta grande sœur,
tu suis le
droit.
Dernier, t'es le...
Ouais. Je suis au milieu. D'accord. J'ai deux grands frères, j'ai un grand frère et une grande sœur, un petit frère et une petite sœur, donc je suis au milieu. Et effectivement, ma grande sœur, c'est la boss, c'est le boss, c'est elle qui,
ah oui,
c'est elle qui commande.
Oui, parce que tu racontes dans,
Le livre, on sent bien qu'il ne faut pas qu'il y ait un dérapage à domicile. Hein.
Effectivement, ça a commencé depuis toujours, mais c'est aussi tellement, je lui dois tellement de choses, c'est ma confidente, elle a joué le rôle d'un peu d'impresario là, avec la presse. Voilà, j'ai un frère qui est chef dans des restos, dans un grand resto parisien. Ma petite sœur qui est dans la fonction publique, mon frère qui a monté son entreprise. Moi, je les admire. Enfin, voilà, on n'était pas du tout une famille de rugby et tout. Donc, ils ont découvert ça un peu. Ils ont regardé ça un petit peu de l'extérieur. Ils étaient fiers de ce que je faisais. Mais moi, je pense que j'étais encore plus fier de ce que je faisais que de ce que je faisais moi.
Alors, juste pour conclure, Bakary, sur cette partie, en tout cas, sur le livre notamment, avant de parler un petit peu de ton avenir, tu as une critique un peu acerbe envers le monde des médias parce qu'effectivement, il y a un premier média, je crois que c'est RMC, tu en parles avec Pierre Amiche, qui évoque ton aventure à l'hôpital. Et puis après, il y a un emballement où tous les médias s'emparent finalement de ton histoire. Et finalement, tu es assez déçu de la façon dont ton affaire est appréhendée, dont ton affaire est traitée sur le plan médiatique. Comment tu l'as vécu? C'était quoi, une frustration?
C'était... Comme tu l'as dit, Pierre Amiche qui fait ce papier je suis très content de le faire parce que Pierre, c'est un pote maintenant en plus et tout. Donc, mais moi, je me suis dit, ça va rester dans la sphère rugby et puis on va en parler rugby ramin, on va en parler Lidl, on va en parler… voilà. Et là, je me rends compte que ça prend une autre tournure et que ça commence à faire les médias. Je fais les médias nationaux, les radios, toutes les matinales, toutes ces chats. Donc, encore une fois… pour parler des gens avec qui je travaillais et tout, etc., des gens qu'on invisibilise, qui font un métier très dur et qu'on n'a pas attendu le Covid pour venir faire ce travail-là, j'accepte bien volontiers de parler. Et je me dis, comme ça, on pourra parler de ces gens-là, on pourra parler de ce métier-là, on pourra parler du fait que c'est une évidence pour tout le monde qu'un hôpital, ça doit rester propre et tout, etc., mais c'est une évidence. Mais pour que ce soit évident, il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Et là... Ça continue, et puis ça ne s'arrête pas. Et puis surtout, à la fin, c'était vraiment devenu les gens qui voulaient avoir une histoire du rugbyman qui a fait le ménage. Moi, je m'en foutais de ça. Je ne suis pas là pour raconter mon histoire et tout. Et c'est ça qui m'a un peu surpris. J'étais habitué aux médias. Alors nous, on a déjà discuté niveau rugby. Les conférences de presse, j'en ai fait. Il n'y a aucun problème. Les micros, tout ça. J'étais rompu à ça, mais je n'étais pas rompu à période Covid, on n'a rien d'autre à raconter, ils font le truc, ils font le machin, donc là, tout le monde se jette sur la même chose.
C'est la manière en fait dont on peut raconter, je vais juste faire un parallèle, quand mon bouquin est sorti, on m'a fait passer pour un ancien dieu du stade qui raconte sa descente aux enfers, donc tu avais dieu, stade, descente, enfer. M6 en une minute, c'était cocaïnomane, dépressif, alcoolique, les gars n'avaient pas lu le bouquin. Pourquoi je t'ai dit ça? C'est que on fait les choses avec passion, je pense, en tout cas, vu comme je t'entends parler au-delà de l'écriture, mais tu fais les choses avec passion. Moi, j'avais mis 2 ans à écrire ce bouquin et la manière dont on peut être caricaturé, en fait, pour nourrir un peu le peuple avec des héros du genre humain. Mais c'est juste un quart du tiers de la moitié de ce qu'on peut vivre, en fait, des rencontres que l'on peut faire. Moi, le bouquin, je l'ai écrit la troisième année avec Thomas Saint-Tourens. C'était une vraie équipe. Et la manière dont tu peux être caricaturé, c'est peut-être pour ça, en fait, et c'est la question que je te pose, c'est peut-être pour ça qu'on en veut aussi à ces médias, c'est que, en fait, tu as une putain d'expérience de vie, mais on va juste te caricaturer en deux minutes juste pour nourrir le peuple et dire allez, regardez, regardez les héros du genre humain qui. Mais en fait, ces héros-là, c'est le quotidien. Ça a été c'est le quotidien de beaucoup, beaucoup de gens. En fait,
c'est comme ça que je l'ai vécu. Et il y a eu des. Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Et je m'étais ouvert à mon éditrice Mireille et je lui avais dit, j'ai beaucoup de sollicitations, tout machin. Elle me dit, attention, je comprends ta frustration. Néanmoins, quand ton livre sortira, tu auras besoin de ces médias-là. Et ça, je le comprends tout à fait. Et je le comprends parce qu'aujourd'hui, j'ai envie que les gens découvrent mon livre. Il faut que j'en parle et c'est pour ça que je suis là et tout, etc. Et je me prêterai volontiers à ça. Mais à l'époque, je n'avais rien à vendre. En fait, je n'avais pas de choses à vendre. J'étais là, je faisais quelque chose dont les gens voulaient parler, je l'entendais. Je voulais parler du microcosme, mais je voulais parler de mes collègues et tout, etc. Et effectivement, comme tu disais, il y a des fois, j'avais des appels de trucs et des gens qui voulaient m'avoir et me faire dire ce qu'ils avaient envie que je dise. Ils voulaient me faire parler des valeurs du rugby, ils voulaient me faire parler de machin. Moi, je n'avais pas envie de parler de ça, en fait. J'avais juste envie de partager mon expérience, qui était un peu. Je comprends la singularité de la chose. Je ne suis pas en train de dire que. Voilà. Mais j'avais juste pas envie d'être maintenant, puisque c'est ça, un clic de plus sur une brève, il fallait qu'on ait son lien internet pour avoir des clics, pour mettre de la publicité, etc. Et j'avais pas envie de ça.
Moi, la question que je te pose, moi, Arnaud, mais je te la pose à toi, Arnaud, justement, comment on le vit, toi qui es un mec quand même qui est à la base, moi je me souviens des articles qu'on a fait, et encore aujourd'hui, j'aime à bosser avec toi, mais est-ce que c'est pas difficile aussi d'exister avec. Je dirais son intégrité dans un système médiatique aussi qui court après le clic. Et la question, c'est pour toi, Arnaud. C'est vrai que c'est savoir comment on le vit aussi en tant qu'homme et en tant que journaliste. Ça fait 20 ans que tu es dans le métier, ça fait 20 ans que je te connais. Toi, tu n'as pas bougé d'un iota, mais tu vois évoluer le sport, tu vois évoluer
moins de cheveux.
Comment on le vit en tant que journaliste?
Non, alors moi, je rejoins. Honnêtement, alors d'abord, je vais te faire une confidence, Zachary. C'est quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit. Wow, purée, j'ai intérêt à être bon sur mes questions là parce que fondamentalement tu avais raison, je pense, sur le fait que les médias avaient besoin de faire du remplissage. On va pas se mentir, et moi je vais prendre l'exemple Midi Olympique. On a fait quand même pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, un journal 100% rugby avec zéro rugby. Et il fallait, à un moment ou à un autre, il fallait remplir le journal, il fallait être inventif. Alors ce genre d'histoire, évidemment, que nous on s'est jeté dessus. Après, nous, je pense qu'on avait toute légitimité à faire. Le sujet avec Bakary, parce que voilà, c'est un personnage atypique du monde du rugby, c'est une personnalité aujourd'hui forte qui nous entoure. Donc, on avait cette légitimité. Après, voilà, je ne vais pas faire l'avocat du diable ou l'avocat d'une cause perdue, mais évidemment qu'il y a des médias qui se sont jetés là-dessus juste pour faire du sensationnalisme. C'est probablement le cas pour certains médias. Après, il y a la sensibilité de chacun. Et moi, j'entends. Et j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent ou qui verront ces vidéos à lire les chiffons bleus parce que je pense que ce que Bakary aurait voulu à travers les sujets qui ont été traités durant le confinement, c'était de mettre en lumière justement les Mariam, les Suèdes, les chefs, je ne sais pas comment on le prononce, préfet ou chef, mais voilà, ceux qui liront le livre comprendront, mais tous ces mini-portraits de gens qui sont cette armée des ombres dans les hôpitaux qui font un travail colossal et surtout vital, qui sont confrontés tous les jours à un manque de matériel, qui sont confrontés à la mort aussi, parce qu'il y a des passages, je ne l'ai pas évoqué, parce que c'est des moments un petit peu difficiles dans le bouquin, mais Bakary peut le dire, il a été confronté à l'annonce de décès à la famille de certains patients. Et je crois que c'est ça que Bakary aurait voulu mettre en lumière durant ses témoignages dans le confinement, qu'il fait aujourd'hui dans le livre. Dis-moi si je me trompe, Bakary.
Non, clairement, c'est ça. C'est clairement ça. Moi, j'ai voulu, dans ce livre-là, et c'est important, et tu me disais, tu soulignais la qualité de tes questions, et là, c'est pareil, c'est que je m'impose effectivement de répondre à des interviews, effectivement, mais j'ai envie de répondre à des interviews de gens qui ont lu le livre et qui s'intéressent au livre. Je n'ai pas envie de répondre aux mêmes questions auxquelles j'ai répondu il y a 2 ans. Alors, effectivement, le livre porte sur ce que j'ai fait il y a 2 ans, mais moi, j'ai envie qu'on parle du livre. Et ce livre-là, effectivement, c'est d'écrire le microcosme dans lequel j'ai vécu pendant cette période et toucher du doigt la dureté du travail des soignants. Tout le monde sait, a priori, qu'être infirmier, infirmière, aide-soignant, c'est dur. Manque de moyens, manque de matériel et tout, etc. Et moi, j'ai pu toucher du doigt ce truc-là. J'ai pu y être au plus proche et j'en parle et j'en parle et j'ai envie d'en parler. Et ça, c'est une des choses qui était importante pour moi.
Je rigole parce que dans le livre, il y a une scène incroyable. À un moment, on vous livre des vêtements qui ressemblent à des sacs poubelles. Et c'est toi, Bakary, qui finalement, qui fait un peu le juge de paix au milieu d'une réunion intersyndicale, j'ai envie de dire, où il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Enfin, c'est juste incroyable, quoi.
C'est des sacs, c'est clairement des sacs poubelles. Et moi, alors déjà, j'avais qu'une seule crainte, c'était qu'on me dise « faut que tu le portes ». J'allais dire « là, quand même, les gars, vous abusez du bail ». Mais ils se plaignent, mes collègues se plaignent de ça. Mais tu te rends compte, les soignants… moi, je l'avais entendu à la télé. Je crois que c'était un hôpital à Marseille où les systèmes D, les soignants, ils s'habillaient avec des sacs poubelles et tout parce que manque de surblouse, manque de machin. Et quelques jours après, je vois débarquer ça dans l'hôpital où je suis. Et là, je me dis « mais c'est réel, c'est un truc de fou ». Mais c'est effectivement, donc il y a ça, ce manque de moyens. Je ne voulais pas faire de pathos, je ne voulais pas faire de polémique, je ne voulais pas à travers ce bouquin, mais il fallait clairement décrire que le travail dans le monde hospitalier, c'est dur.
Et ce n'est pas pour tirer les pompes, mais... Attends, je termine juste là-dessus, Raph, et je t'en prie, vraiment, ce qui est incroyable, c'est que tu le fais en plus avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse, parce que c'est très drôle, la scène. C'est dramatique, mais en même temps, c'est très drôle.
Bah, j'essaye effectivement.
Non, je t'en prie, mais moi, j'ai toujours essayé de faire le parallèle entre les héros du genre humain, de ceux qu'on voit à la télé à travers le rugby, chose que tu as été, Bakary, à Béziers, à Carcassonne, et dans tous les clubs dans lesquels tu es passé. Il y a un peu ce truc de héros du genre humain. Est-ce qu'à travers ce bouquin, justement, qui est génial, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi derrière de remettre l'église au centre du village, on va dire, et en fait, de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire les héros du genre humain, ce n'est pas ceux qui font 30 plaquages sur un terrain, c'est peut-être ceux qui se tournent vers les autres et qui sont au service des autres aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mix des deux, sachant que tu l'as vécu. Oui, d'une semaine sur l'autre, en fait, tu passes de ce côté héroïque sur le terrain devant 5, 10, 15, 20 000 personnes, et du jour au lendemain, tu te retrouves dans un truc où, en fait, les héros du genre humain, c'est peut-être ceux qui sauvent des vies aussi, et que de nettoyer par terre, bah, ça fait partie aussi au cycle de sauver des vies aussi, quoi.
Alors, à Carcassonne, au Stade français, on est plus proche de 5 que de 20. Petite...
de 5 personnes vous... oh, j'ai commencé au stade, il devait y avoir 100 personnes dans les tribunes.
Putain. Clairement. Et moi, j'adore, je te jure, quand je rentre sur le terrain, j'adorais le public, l'engouement qu'on pouvait susciter. Et ça, c'était un vrai moteur pour moi, vraiment. Mais encore une fois, je disais souvent à mes collègues et les mecs de mon équipe, souvent quand je discutais avec des supporters et tout machin, et tu vois les gens qui sont emballés par ce que vous faites et tout machin. Et je me dis, mais autant ça doit être mis en valeur, le travail de rugbyman, parce que c'est un métier dur et tout, autant ça reste que du sport. On file des émotions aux gens, mais on n'a pas inventé le vaccin contre la rage. Et ça, c'était important de le savoir. Et effectivement, il y a des gens au quotidien qui sont bien plus importants que nous. Mais encore une fois, il n'y a pas de classement à avoir.
Il n'y a pas de hiérarchie. Non.
Ouais, voilà. Exactement, il n'y a pas de hiérarchie. C'est le mot que je cherchais. Il n'y a pas de hiérarchie. Mais on existe au même titre que voilà. Tu vois, il y avait ce débat aussi là, pendant le Covid, les confinements, entre ce qui était essentiel et ce qui n'était pas essentiel. Les artistes se retrouvaient mis au banc parce que c'était non essentiel. Mais moi, je ne sais pas. C'est important de transmettre des émotions aux gens, de transmettre des choses, de faire évader les gens de leur quotidien et tout, etc. Donc, qui on est pour dire ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel, tu vois ?
Tout est essentiel, en fait.
Messieurs, on a
hiérarchisé les réussites.
On est très long, on va bientôt conclure, mais il y a quand même deux petites questions. Parce que moi, j'aimerais savoir, et on en a parlé avec Raph, dans le livre, tu parles que ton initiative a marqué quand même un petit peu le monde du rugby. Tu rapportes notamment certains messages reçus de ceux de Nicolas Bézi, que tu connaissais quasiment pas, sinon que vous aviez peut-être croisé le fer. Et puis, tu évoques l'appel, le coup de téléphone du sorcier du Gers, Henri Broncan. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce sport, c'est un personnage emblématique, presque mythique, hein, qui avait réussi des miracles avec son club de Hoche à l'époque. Est-ce que tu as senti le regard des gens changer éventuellement un petit peu sur toi je parle vraiment à l'échelle du rugby, Bakary.
Écoute, ouais, un petit peu, on va pas se mentir. Mais pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, quand Henri Broncan il m'appelle, moi, ça m'a clairement marqué parce que on se connaît pas, je le connais pas. Enfin, moi, je le connais à travers ce qu'il a fait. Je m'imagine qu'il m'a connu à travers le fait, du fait qu'il suivait le rugby, mais on ne se connaissait pas personnellement. Et c'était le deuxième contact que j'avais avec lui. Il m'avait déjà sollicité, je crois qu'il m'avait envoyé un texto quand j'avais pris position, effectivement, sur, contre ce que Robert Ménard avait dit sur, au sujet des migrants. Il m'avait envoyé un texto pour me féliciter pour ma prise de position. Déjà, ça, j'avais été halluciné de recevoir ça. Et ensuite, il y a eu ce coup de fil-là. Et c'était vachement important pour moi. Et on ne cherche pas la reconnaissance de ses pairs, mais c'est toujours gratifiant et ça fait toujours plaisir. Et surtout quand c'est quelqu'un comme lui, au même titre que le texto de Nico Bézic que j'ai reçu, je lui ai répondu, mais j'ai trouvé ça hyper classe. Et effectivement, bah, quand on est retourné sur les terrains, j'ai eu des témoignages d'adversaires, de partenaires qui m'ont clairement félicité pour ce que j'ai fait. Et c'était cool, c'était vraiment
cool. C'est pour ça que tu es important, c'est ce que je disais dans le portrait en introduction, c'est pour ça que des mecs comme ça sont importants. Parce que autant tu parais atypique, mais en fait, tu dégages un petit peu ce que beaucoup de gens pensent et c'est assez positif. Tu vois, je parlais de la petite mort au début, mais en fait, toi, tu le transformes en renaissance et je pense que l'importance des mots, elle est là et que tes papiers dans le middle et que ce bouquin et que tes témoignages et que ce côté artistique, on en a besoin parce qu'on a besoin d'avoir des gens comme toi aussi pour inspirer les gens aussi différemment. Et que le retour de bâton, de témoignages de Nico Bézi, de Broncan et puis bien d'autres, hein, parce que moi je te suis sur les réseaux et je vois aussi les témoignages de tous ces joueurs connus et inconnus. On a besoin de mecs comme toi. C'est essentiel parce que ça permet juste de s'identifier à autre chose que du gladiateur qui pense qu'avec ses couilles et son cœur, et ça c'est essentiel. Donc,
je suis 100% d'accord avec toi, il faut, et ce serait bien effectivement, mais. Tant la responsabilité à l'incombe aux joueurs autant qu'aux supporters qu'on sorte de cette image d'épinal de gladiateur, quoi, tu vois. C'est, on fait du rugby, c'est génial, on se régale et tout, mais j'en ai marre d'entendre ou de lire « Putain, lui, c'est vraiment un guerrier. » Parce qu'il a l'arcade ouverte, quoi. C'est bon, tu vois. Enfin, on joue au rugby, enfin, c'est un sport de combat.
Oui, enfin... Macari, mais parce que tu as connu, connu l'envers du décor, tu as connu de l'autre côté et qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain aussi le regard de nos supporters. Il faut le faire justement avec philosophie, avec parcimonie et pas essayer de sauver quelque chose, que le rugby est plutôt beau. Et puis, je te dis, c'est par ces témoignages-là en fait, qu'on arrivera aussi à changer les mentalités sur ce côté guerrier invulnérable, une fois de plus, qui pensait avec ses couilles et son cœur. Parce qu'on est bien plus que ce cliché. Donc, casser les clichés, ça passe par tes prises de parole, par ce podcast, par beaucoup de. Par la plume qu'Arnaud aussi dans ses papiers. C'est qu'est-ce qu'on a envie de laisser à la génération future? La génération d'avant a été comme ça. Notre génération, et par ce côté artistique que tu as, tu fais passer des messages. Et force est de constater qu'une fois de plus, Bézi, Broncan et bien d'autres, tu es à ta place et tu es au bon endroit et ça fait du bien. Et c'est cette reconnaissance-là qui est plutôt chouette.
Bah, merci. Merci.
Allez, une dernière question pour conclure, parce que moi j'ai aussi appris des choses dans ce livre, au-delà des témoignages et la découverte d'une écriture vraiment ciselée, très, très, très portée sur l'empathie et sur l'envie de partager. On apprend que tu prépares aussi un diplôme d'agent, et c'est quelque chose que tu prépares donc depuis un petit moment, puisque durant ce confinement, tu expliques que tu suis des cours. En distanciel, au milieu des cours que tu donnes à tes petites nièces, aux voisines, au milieu des chiffons bleus. Enfin, le confinement, finalement, pour toi, il n'y a pas eu d'ennui. Mais surtout, ma question, c'est l'avenir. Aujourd'hui, ta carrière de rugbyman professionnel est terminée, Bakary. Il y a un premier bouquin qui sort qui peut lancer une éventuelle carrière, mais on n'en est qu'aux prémices. Mais l'actualité, c'est éventuellement de devenir agent de joueur, c'est ça?
Ouais. Effectivement, ouais. Je suis déjà employé dans une société d'agent de joueur où j'effectue un métier de welfare manager pour utiliser un anglicisme, mais je m'occupe du joueur, je m'occupe de la relation avec les entraîneurs en attendant de passer ce diplôme pour devenir agent et d'avoir ma licence, parce que je n'ai pas de licence, donc je ne suis pas encore agent, mais c'est ce que je prépare. On en a parlé un petit peu avant l'émission, et ce qui m'a décidé, c'est que au-delà du fait que j'ai eu une expérience très très malheureuse avec l'un d'entre eux, c'est surtout de me dire que ça manquait d'anciens joueurs. Alors, il y a beaucoup de juristes, il y a beaucoup de mecs qui ont étudié le droit et tout, etc., parce que c'est essentiellement le droit du sport et d'autres facettes du droit. Mais effectivement, ça manque d'expérience pro, ancien joueur, qui a eu à jouer, qui a eu à fréquenter des entraîneurs, des dirigeants et aussi des agents. Et moi, je suis dans une génération, on parlait de génération tout à l'heure avec Faf, moi, je suis dans une génération où... je me retrouve avec des mecs qui ont mon âge ou un petit peu plus âgés qui entraînent déjà. Donc, je me retrouve en contact avec eux régulièrement pour parler rugby. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et dans ce métier-là, c'est vraiment ça qui m'intéresse, parler rugby, parler d'un joueur, au-delà de parler contrat et tout, etc. Et donc, je prépare ça. Pour légitimer tout ça, je prépare aussi mon diplôme d'entraîneur, l'EDE, au Crêpes de Montpellier. J'en parle aussi dans le livre. Et même si la volonté d'entraîner, elle n'est pas très à un niveau professionnel, j'entends, elle n'est pas présente aujourd'hui, je le fais par acquis de conscience et je me dis que peut-être demain, ça me prendra et que j'aurai envie d'entraîner. Et j'aurai déjà ça, j'aurai ce bagage aussi. Voilà, et puis je suis curieux de pas mal de choses. Donc, le diplôme d'entraîneur, ça me permet de découvrir plein de choses, plein de facettes de quelque chose qui a été mon métier pendant longtemps. Mais quand on passe de l'autre côté, effectivement, il y a des choses qu'on ne voit pas de la même manière. Et quand on est joueur, on est un petit peu très auto-centré, même si on sait que c'est un sport collectif. Et préparer le diplôme d'entraîneur, préparer le diplôme d'agent, c'est deux choses qui me tiennent vraiment à cœur parce que je reste proche de ce milieu-là, mais je le vois d'une autre manière et je l'envisage différemment.
Messieurs, on touche à la fin de l'émission. Je vais laisser la conclusion à notre ami Raph Poulain. Tu tenais absolument à recevoir Bakary. Je crois que tu n'es pas déçu, Raph.
Non. Moi, je suis très heureux parce que ça permet déjà de... Tu te sens, dans moi aussi, mon parcours, parce qu'on a quand même pas mal de similitudes, tu te sens un petit peu moins seul aussi, même si à 41 ans, j'assume ce que je suis et tout ça, mais le fait de pouvoir le partager, ce côté artistique, cette vulnérabilité, ce côté hétéroclite où on me dit, mais Poulain, il fait quoi? Il est acteur, il est conférencier, il est sur Eurosport, il y a tellement de choses. Et en fait, les gens ont besoin de te mettre dans des cases, et c'est pour ça que j'avais besoin de conclure le portrait que j'avais fait de Bakary en disant, j'ai juste envie de me laisser porter par la rencontre. C'est ça, c'est qu'en fait tu maîtrises pas ce que tu as en face de toi et que voilà, je suis pas du tout déçu, bien au contraire, j'arrivais avec aucun a priori, avec beaucoup de positifs parce que je te suis sur les réseaux et je suis pas déçu quoi, ce côté hétéroclite où le rugby est un épiphénomène qui te permet de devenir un homme, t'en es l'exemple type, donc c'est pas de te cirer les lattes et tu l'auras bien compris, que de te dire que tu es à ta place dans le middle, que tu étais à ta place ici, que ce bouquin il a toute sa place dans le microcosme du rugby et bien au-delà parce que c'est sociétal. Donc, ravi de t'avoir rencontré enfin et puis au plaisir de visu d'aller boire une bière avec toi au Stade Français pour enterrer la hache de guerre.
écoute...
D'aller profiter ensemble en tant que supporter d'un club que toi et moi, on a badé et qu'on bade encore malgré nos expériences un peu traumatisantes. Quoi.
Ouais, non, mais merci à vous déjà pour l'invitation et j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter ce que j'ai fait. Ce bouquin, ça a été dur. Tu lui parlais tout à l'heure que tu as écrit pendant 2 ans. Moi, j'ai mis petit peu moins un an et demi, presque 2 ans effectivement à l'écrire, c'était pas facile tous les jours, mais je suis heureux de du résultat et merci tout simplement parce que tu parlais de cases et tout, etc. Et souvent les premiers à se mettre dans les cases, c'est les gens de ton entourage, donc les gens du rugby effectivement. Donc, toi, j'ai suivi moi ça pendant que je jouais encore, tu dénotais tout de suite, et puis c'était effectivement ce que tu disais, on t'affublait de plein de choses et on n'arrivait pas, on disait il est insaisissable et tout machin, et des fois ça peut être dit de façon péjorative, et moi j'étais admiratif de ça, et effectivement il y a des similitudes, donc merci encore pour l'invitation, merci Arnaud pour les écrits, pour les mots et tout, etc. Et voilà.
Je rappelle, les chiffons bleus, donc je rappelle, ce ne sont que les épreuves non corrigées, mais Bakary va vous montrer, voilà, c'est dans toutes les bonnes librairies depuis vendredi. C'est une belle radiographie d'un instant de vie, d'une tranche de vie, avec beaucoup de portraits, de mini-portraits de cette armée des ombres, aussi précieuse et vitale qu'elles peuvent être. Voilà. Messieurs, aujourd'hui, Poulain Raffut avait une tonalité toute particulière. On s'est inventé un petit peu critique littéraire, ce dont je ne suis pas très... On va dire que je ne suis pas hyper habitué, pas hyper à l'aise. Et j'avoue qu'en plus, en lisant le passage sur les journalistes dans le bouquin de Bakary, je m'étais mis un peu la pression. J'espère qu'on aura été à la hauteur. Un grand merci. Poulain Raffut, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve, Raphaël, la semaine prochaine, même endroit, même heure.
Merci.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.